Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 48FM, il est 9h30. Tout de suite, votre journal présenté par Quentin Coles.
Bonjour à toutes et à tous, dans les titres de l'actualité, aujourd'hui, en cette période de Saint-Auré, rencontre avec des anciens étudiants, toujours présents pour faire la fête. Vladimir Poutine et Donald Trump se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu en Ukraine. En fin de ce journal, suite de notre série sur l'extrême droite, avec un focus sur les stades de football. Hier avait lieu le traditionnel cortège de la Saint-Auré. Les étudiants ont donc paradé dans la ville. Des jeunes aux études, oui, mais pas que. Nathan Lacomble est allé à la rencontre d'anciens étudiants un peu nostalgiques.
Comme chaque année, les chars des comités de baptême sillonnent les rues du centre-ville de Liège. Les affronts s'enchaînent sous le soleil et sur le rythme des différentes musiques. La foule est principalement constituée de jeunes, mais quelques anciens étudiants tiennent toujours à être présents pour le cortège de la Saint-Auré. Laurent Grégoire et Philippe Mathieu, baptisés dans les années 90.
C'est les plus belles années de notre vie, et quand on revient ici, on retrouve un peu cette ambiance insouciante qu'on avait à l'époque.
On revoit les bons potes de guindaille de l'époque, parfois c'est la seule période de l'année où on les revoit, mais ça fait toujours un plaisir. Et même si on se dit juste bonjour, comment vas-tu, on échange juste trop la banalité, mais ça fait tellement plaisir de revoir les gens avec lesquels on a fait la fête.
Le cortège est l'occasion pour certains anciens étudiants de se replonger quelques heures dans la guindaille. Caroline, baptisée en 2004.
Il y a ceux qui sont restés des guindailleurs toute leur vie et qui sont tout le temps dans ce milieu-là toute l'année. Et puis il y a quelques personnes, dont moi, qui ne sont pas spécialement dans le milieu de la guindaille toute l'année, mais qui, pour qui c'est une occasion de l'année de poser une récup et de venir passer une belle après-midi au soleil.
Une après-midi où les plus anciens côtoient donc les plus jeunes, la bonne entente entre générations est primordiale. Michel Peters, baptisé en 1985.
Tant que l'accueil des jeunes est positif, si on voit que les jeunes ne sont plus très positifs, je pense qu'à un moment il faut savoir prendre du recul et dire « moi j'ai fait mon temps ». Il ne faut surtout pas non plus prendre leur place. Voilà. Mais tant que l'accueil est positif, franchement, je ne vois pas pourquoi j'arrêterai.
Un partage du folklore qui continuera encore pendant de longues années.
Pour rappel, les festivités estudiantines se terminent aujourd'hui avec les 4 heures trottis. Toujours à Liège, la criminalité a enregistré une baisse de 4,8% cette année. La police de Liège vient de présenter ses statistiques de l'année 2024. Les atteintes aux biens restent les infractions les plus fréquentes. Elles représentent 52% des faits enregistrés. Les faits d'atteinte aux personnes enregistrent une légère baisse avec 21% des faits enregistrés. Les infractions liées aux stupéfiants, elles, sont en hausse. On passe de Liège à la Flandre puisque Georges-Louis Boucher souhaite implanter l'EMR en Flandre. Le président libéral a évoqué cette possibilité lors d'un entretien avec le journal Le Soir. Selon lui, le nombre d'adhérents néerlandophones a augmenté significativement ces dernières années. Il existe déjà des sections du MR dans le Brabant flamand. Un premier pas sur ce chemin a d'ailleurs été posé. Ce lundi, le néerlandophone Rudy Ernaut est devenu le nouveau chef de cabinet de Georges-Louis Boucher. Du côté de l'OpenVLD, on est plutôt circonspect. Si certains ont déjà pris leur carte du MR, la présidente des libéraux flamands, Eva de Bleeker, tempère. Un projet de MR flamand n'a pas de sens aujourd'hui, que chacun s'occupe de soi. Et maintenant, place à l'actualité internationale avec vous, Thomas Radou.
Oui, le président américain Donald Trump et Vladimir Poutine sont parvenus à un accord sur un cessez-le-feu en Ukraine hier soir. Un cessez-le-feu seulement partiel qui ne concerne que les airs, la mer et un arrêt des frappes sur les infrastructures énergétiques. De son côté, l'Ukraine reste très prudente quant aux annonces prononcées par les deux présidents, Trump et Poutine. Les Ukrainiens soupçonnent en fait le Kremlin de vouloir gagner du temps et estiment que la Russie ne compte pas renoncer à la guerre de sitôt. Un élu et un ex-élu du Parlement européen sont suspectés d'avoir floué le Parlement pour gonfler leurs indemnités et défraiements. Il s'agit de deux hommes politiques italiens, Fulvio Martucciello, eurodéputé depuis 2014, et Giuseppe Ferrandino, eurodéputé, entre 2014 et 2018. Les deux hommes sont suspectés d'avoir falsifié des documents afin d'obtenir de façon indue l'indemnité à laquelle a droit chaque membre de l'Assemblée lorsqu'il est physiquement présent au Parlement. Ils auraient apposé l'un pour l'autre leur paragraphe sur les registres officiels afin de se couvrir mutuellement et ainsi engranger un maximum de défraiement.
Merci Thomas. En sport, Thibaut Courtois fait son grand retour en équipe nationale. Le gardien des Diables Rouges était en conflit avec l'ancien sélectionneur Domenico Tedesco. Il a présenté ses excuses au groupe en début de semaine et souhaite repartir d'une page blanche. Il s'est présenté face à la presse hier soir, accompagné de Youri Tielemans. Les deux joueurs ont déclaré vouloir aller de l'avant. Thibaut Courtois n'a plus défendu la cage des Diables Rouges depuis le 17 juin 2023 face à l'Autriche. Il devrait fêter sa 103e sélection face à l'Ukraine ce jeudi. Une vingtaine de joueurs de l'Association des joueurs de tennis professionnels cofondée par Novak Djokovic ont intenté hier une série d'actions en justice. Ces actions visent plusieurs instances sportives, dont l'ATP et la WTA. Ils accusent ces associations de promouvoir un système corrompu, illégal et abusif. Comme annoncé, suite de notre page spéciale consacrée à l'extrême droite. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la présence de l'extrême droite dans les tribunes de football avec vous, Antoine.
Oui, Quentin, ces dernières années, beaucoup de tribunes de stades de football européens se sont fait remarquer par des actions racistes, saluts fascistes, cris de singes ou banderoles. Les tribunes ont parfois été le théâtre de scènes déplorables. Des scènes qu'on retrouve partout en Europe, mais aussi chez nous, en Belgique. Le football belge a été scruté pour les mauvaises raisons en début de saison. Alors qu'il se déplaçait au Standard de Liège, de nombreux supporters du FC Bruges ont effectué un salut de Kunen. Le Kunen, c'est en fait, en quelque sorte, une alternative au salut nazi, avec le bras tendu en commun, mais trois doigts levés, au lieu de la main à plat. L'action avait d'autant plus choqué puisqu'en amont du match, était organisée une action de lutte contre le racisme.
Et y a-t-il des réprimandes ou des punitions pour les auteurs de tels gestes ?
En fait, c'est tout l'enjeu du problème. Les tribunes ne sont évidemment pas homogènes et il est difficile de punir les coupables concernés sans punir toute la tribune. En fait, les actions sont rarement des faits isolés. Ils émanent majoritairement de groupes de supporters, souvent appelés ultras. Les clubs en ont de différents, ayant chacun leur code. Ils sont souvent politisés et affichent leur allégeance de différentes manières. Ils sont parfois antifascistes, parfois à gauche, parfois à droite, ou même apolitiques. Plusieurs groupes de supporters s'affichent ouvertement à l'extrême droite désormais, et c'est le cas de North Fanatics 2013, le groupe de supporters brugeois à l'origine de l'incident du salut de Kunen, qui a été forcé à la dissolution après cet événement.
Et comment ce soutien à l'extrême droite se manifeste-t-il ?
Comme évoqué un peu plus tôt, c'est souvent par des gestes, des banderoles ou des chants. Pour reprendre l'exemple de North Fanatics 2013, dans l'image glaçante d'un gradin effectuant un salut fasciste, juste en dessous de ces tribunes se trouve en fait une banderole condamnant l'antifascisme ainsi qu'un drapeau flamingant. Mais Bruges, qui a d'ailleurs condamné le club de Bruges qui a d'ailleurs condamné le salut de Kunen, n'est pas le seul club belge confronté à du racisme dans ces tribunes. Dans une interview accordée à nos confrères de RTL, Manuel Abramovic, spécialiste de l'extrême droite et animateur du site Résistance, avance qu'une partie des hooligans d'extrême droite de grands clubs belges se retrouvent à Bruges, Molenbeek, Anderlecht ou Opperscott.
Et comment est-ce qu'on pourrait réguler ça ?
Il y a évidemment les traditionnelles interdictions de stade. 200 ont été distribuées durant la saison 2023-2024, pas uniquement pour des faits de xénophobie, cela dit. Des actions contre le racisme sont organisées par l'Union belge, mais cela n'empêche pas forcément le racisme de prospérer. Et en 2023, un texte de l'ex-ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinde, a été adopté, durcissant le ton concernant les actes de racisme dans les tribunes. Mais pour le politologue Michel De Waal, la banalisation de l'extrême droite peut être un élément expliquant ce genre d'incident dans les stades, je le cite, avec les scores électoraux du Vlaams Belang en Flandre et avec la droitisation, avec le rejet des migrants qui s'emparent de toute l'Europe, comment ces sentiments ne se trouveraient-ils pas présents dans les stades ? Fin citation. À noter que peu de groupes ultra en Wallonie se sont illustrés par une idéologie d'extrême droite.
Merci Antoine, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, sur 48 FM.